Voilà un long texte et pas très facile qui nous est proposé par nos listes de lecture pour ce premier dimanche de septembre. Alors, pour tenter de le rendre accessible, on peut essayer de le résumer et peut-être même d'en dégager la substance. La loi et la tradition, le pur et l'impur. Il est sûr que c'est une double antithèse qui nourrit ce long passage. Et si on s'en tient à cette double antithèse, on peut finalement le condenser facilement. La tradition des anciens ne peut aller contre la loi de Moïse, et la seule pureté ou impureté qui compte, c'est celle du cœur de l'homme. Et on peut même encore ramasser le message, c'est le changement apporté dans le cœur de l'homme par le respect de la loi de Moïse qui le rend pur et pas le respect servile de traditions alimentaires ou rituelles. Alors, je vais évidemment pas m'en tenir à ce résumé, je vais essayer de lui donner un peu de chair parce qu'en fait, il est très lapidaire et je pense qu'il est très réducteur. Dans ce texte, tout part d'un mouvement. Ce sont le premier verset. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent autour de Jésus. S'assembler, se rassembler, l'évangéliste Marc utilise le verbe grec qui est de la même racine que le substantif d'où est né le mot synagogue. Et au chapitre précédent, Marc a recours à ce même verbe pour décrire le mouvement des disciples que Jésus avait envoyés en mission et qui reviennent pour lui rapporter tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Et également, dans d'autres chapitres du même évangile, c'est toujours le mouvement des foules qui s'assemblent autour de Jésus qui est exprimé par ce verbe. Et ce rapprochement n'est pas du tout usurpé. Il ne nous est pas dit que les pharisiens et les scribes sont venus avec des intentions hostiles. Ils sont venus et ils se sont rassemblés autour de Jésus comme le font des disciples. Mais c'est précisément le comportement des disciples de Jésus au cours d'un repas qui va transformer ce mouvement en une controverse. Les pharisiens et les scribes constatent en effet que les disciples ne se sont pas lavé les mains avant de prendre leur repas. Alors, ce repas des disciples, ça n'est rien d'autre que le partage du pain. Comme quelques versets avant notre passage, les disciples l'ont fait à la demande de Jésus, au bénéfice de la foule, à partir des 5 pains qu'ils avaient avec eux. Notre récit suit immédiatement cette multiplication des pains. Quand on parle de repas, on ne parle pas seulement de l'ingurgitation des calories nécessaires à la vie, mais on parle de ce qu'est le repas dans le Nouveau Testament, l'essence même du partage fraternel. Vous constatez ensuite dans ce texte que Marc, qui s'adresse peut-être depuis Rome à un public qui est principalement non-juif, Marc prend grand soin d'expliquer à ses lecteurs que les pharisiens ne relèvent pas ainsi un manque d'hygiène. Hein, ce ne sont pas des parents qui disent à leurs enfants « va te laver les mains ». Mais ils relèvent bien le non-respect de règles rituelles. Et c'est pour ça que Marc détaille les règles issues de la tradition des anciens que les juifs en général et les pharisiens en particulier respectent avant de manger. Il nous donne quelques détails sur le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. Mais il s'agit bien de la tradition des anciens et pas de la loi de Moïse telle qu'elle est recueillie dans la Torah, dans les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. En effet, on ne parle dans ces 5 premiers livres de l'Ancien Testament d'ablution rituelle que pour les prêtres avant d'offrir un sacrifice. On n'en parle pas du tout avant le repas. C'est donc d'une affaire très sérieuse dont nous parle Marc. Il s'agit pour les pharisiens de se rendre purs pour participer à un partage fraternel du pain. Et pourtant, ce qu'on peut qualifier d'obsession des pharisiens, eh bien, vous le voyez, elle est insupportable à Jésus. Et il la stigmatise. D'abord, il reproche aux pharisiens d'invoquer une règle purement formelle, du type de celle que dénonçait le prophète Ésaïe, dans le passage qu'il cite. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Et donc, il oppose le mouvement des lèvres et le mouvement du cœur, et il dénonce la vanité de paroles qui n'engagent pas. Mais Jésus va plus loin dans sa critique. Il constate que le respect de cette règle formelle, qui est issue, donc on l'a vu, non pas de la loi de Moïse, mais de la simple tradition des anciens, eh bien, elle devient un prétexte pour ne pas respecter les commandements de Dieu tels que Moïse les a transmis. Et c'est là que la lecture de notre texte ne se simplifie pas, parce que Jésus prend un exemple particulièrement scandaleux d'une telle situation où le respect de règles formelles peut éloigner du respect des vrais commandements de Dieu. Et donc, il change complètement de registre, il ne nous parle plus de l'obsession des ablutions rituelles avant de partager le pain. Non, il cite une toute autre règle, une règle issue de la tradition, là encore, et seulement de la tradition, qui dispensait du devoir de secours envers ses parents ceux qui faisaient vœu de donner au temple les sommes correspondantes. Et Jésus utilise le mot que la Torah utilise à plusieurs reprises, le mot hébreu « korban », l'offrande sacrée faite à Dieu, le plus souvent d'ailleurs sous forme d'un sacrifice animal, mais aussi sous forme d'argent. Et évidemment, à aucun moment, la loi de Moïse n'imagine le mécanisme totalement hypocrite et très rémunérateur pour le temple que stigmatise Jésus. Vous avez compris. Ce que vous auriez consacré à entretenir vos vieux parents dans le besoin, vous le donnez au temple et vous n'avez plus besoin de vous occuper de vos vieux parents. On espère que le temple s'en occupera. Évidemment, c'est totalement hypocrite parce qu'un tel mécanisme, ça dédouane à très peu de frais des enfants qui n'ont sans doute pas beaucoup d'affection pour leurs parents, et ça les dédouane de subvenir à leurs besoins dans leurs vieux jours. Et puis, c'est rémunérateur pour le temple qui fait de l'argent aux dépens de cette obligation qui est la plus naturelle à l'homme, à l'espèce humaine, s'occuper de ses vieux parents. Il n'y avait que l'homme pour inventer un tel mécanisme. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Jésus au début du 1er siècle, au début du 1er siècle, pardonnez-moi, qui critique ce mécanisme. Et donc Jésus, finalement, il trouve une cible assez facile, particulièrement scandaleuse, je le répète. Pourtant, après ce détour un peu caricatural, qui a pour objet de décrédibiliser totalement ces fameuses ablutions rituelles, on y revient, que respectent les pharisiens, Jésus en dénonce, cette fois-ci très directement, très frontalement, l'inutilité radicale. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on constate dans le texte qu'il cesse de s'adresser aux seuls pharisiens, il appela de nouveau la foule, nous dit le texte. Il assemble la foule autour de lui et il attire très très solennellement l'attention de tous ceux qui sont là sur ce qu'il s'apprête à dire. Il dit « Écoutez-moi et comprenez ». Et il l'ajoute si solennellement que plusieurs des versions dans lesquelles nous est parvenu l'évangile de Marc, y compris celle qui nous a été lue tout à l'heure, rajoutent cette formule que Jésus utilise parfois lorsque il invite à méditer une parole qui ne se reçoit pas facilement. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alors, quelle déclaration solennelle fait ainsi Jésus et sur laquelle il entend attirer très très clairement l'attention? Eh bien, c'est celle-ci, il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui. Et au contraire, c'est ce qui sort de l'homme qui rend l'homme impur. Marc qualifie cette déclaration de parabole. On peut s'interroger sur la pertinence de cette catégorie des paraboles dans laquelle l'évangéliste range ce propos. On y reviendra. Toujours est-il que les disciples qui sont là au milieu de la foule n'ont pas compris ce que Jésus a dit à la foule. C'est une constante dans l'évangile. Les disciples ne comprennent pas grand-chose à ce que dit Jésus. Et cela nous rassure tous beaucoup. Alors, puisque les disciples n'ont pas compris, il va leur répéter, cette fois-ci à leur seul bénéfice, il va leur répéter ce qu'il a dit de façon plus développée pour être le plus clair possible. Et il va donc, au-delà de ses seules ablutions rituelles avant le repas, il élargit donc son propos aux interdits alimentaires. Et vous avez vu la traduction qui nous est proposée. Ce qui est impur, ça n'entre pas dans le cœur de l'homme, mais ça entre dans son ventre. Et puis, dans la traduction qui a été lue, c'est évacué à l'écart. Dans d'autres traductions, ça va dans la fosse. Vous avez parfaitement compris de quoi il s'agit. Il s'agit du fonctionnement de notre système digestif et des différents réceptacles que les civilisations, peu à peu, ont inventés pour tenter de mettre à distance le produit du fonctionnement de notre système digestif. Et donc, à ce fonctionnement-là, il oppose le cœur de l'homme et ce qui sort du cœur de l'homme, et pour lui, c'est le seul critère du pur et de l'impur. Et en faisant cela, on comprend qu'il revient à la première opposition qu'il avait relevé, qui revenait à écarter la tradition des anciens pour ne garder que la loi de Moïse, parce que tous les comportements qu'il va énumérer à ce moment-là, c'est du cœur de l'homme, dit l'évangéliste, que sortent les mauvaises pensées, prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regards envieux, blasphème, orgueil, folie. Eh bien, tous ces comportements sont bien ceux qui sont prohibés par la loi de Moïse, par le décalogue. Alors, j'ai essayé de comme je le disais en commençant, de tenter de donner un peu de chair à ce texte difficile. Mais est-ce qu'au terme de ce parcours, nous sommes vraiment plus avancés ? Est-ce que nous ne restons pas comme les disciples et que nous ne risquons pas de comprendre de travers, de ne pas tout comprendre ? Il faut, pour éviter les malentendus, il faut revenir à ce vocabulaire difficile. Et le plus souvent, je le dis très sincèrement, mortifère, ce vocabulaire de Jésus qui est celui du pur et de l'impur. C'est le vocabulaire de son temps, et il faut bien le dire, cela reste bien souvent le vocabulaire qu'utilisent les religions. Et ces deux catégories très totalement opposées, elles structurent, par exemple, tout le Lévitique, un des cinq livres de la Torah. Celui-ci énumère, parmi les animaux terrestres, ceux qui sont impurs, ceux qui ont le sabot fendu et qui ruminent. C'est le contraire, ceux-là sont purs, vous voyez, je m'y perds. Ceux qui ont le sabot fendu et qui ruminent, ceux-là sont purs. Les animaux aquatiques, ceux qui ont des nageoires et des écailles, ceux-là aussi sont purs. Mais les autres sont impurs. Dans le Lévitique, pour les oiseaux, les animaux du ciel, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, au lieu de donner cette ligne de partage simple, le Lévitique énumère en gros chaque espèce d'oiseau. Mais évidemment, cette catégorie du pur et de l'impur, elle ne s'attache pas seulement aux animaux. Elle s'attache aux hommes aussi. La femme accouchée, le malade de la lèpre sont impurs. Et la liste serait bien longue. Cette distinction, elle crée une frontière qui peut parfois être franchie par l'accomplissement d'un rite de purification, mais qui est souvent intangible. Ainsi, s'il n'est pas guéri, le lépreux reste impur. C'est seulement s'il est guéri et s'il le fait constater selon le rite prévu par le Lévitique qu'il redevient pur. Et rien ne pourra jamais rendre pur un animal impur. Et si l'on y réfléchit bien, c'est cette même frontière dont les pharisiens sont imprégnés qui fait qu'ils ne prendront pas de repas avec les disciples de Jésus parce qu'ils ne se sont pas lavé les mains. Mais bien au-delà, cette question, elle était au cœur des conflits dans les premières communautés chrétiennes qui rassemblaient autour de l'Évangile des juifs et des non-juifs. Des juifs élevés dans le respect de ces règles de pureté et d'impureté, et des non-juifs pour qui elles n'avaient pas de sens. Et donc c'est cette frontière que Jésus abolit. Il n'y a plus d'interdit alimentaire, et le partage fraternel du pain par tous, quelle que soit son origine, devient possible. C'est véritablement un mur de séparation qui tombe, ce qui fera dire à l'apôtre Paul, il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni homme libre, ni esclave. Et dans notre passage, Jésus a proprement parlé abat les murs, il abolit les discriminations, il libère des préjugés et des hiérarchies. Et ça n'est pas un exercice facile auquel il se livre. D'ailleurs, le passage qui suit immédiatement notre texte nous donne un exemple où Jésus lui-même se trouve confronté à une de ses frontières et pas très enthousiaste à l'idée de la franchir. C'est lorsque une femme syrophénicienne, une femme non-juive, l'implore de chasser un démon hors de sa fille. Jésus, il est totalement imprégné d'une frontière entre juifs et non-juifs, et il lui répond très vertement, « Laisse d'abord les enfants, il parle des juifs, se rassasier, car ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » On comprend qu'il parle des non-juifs. Et la femme, loin de souffrir, comme elle l'aurait pu, de cette comparaison humiliante, elle ne se démonte pas, elle réplique que les petits chiens, sous la table, mangent les miettes laissées par les enfants. Et cette réponse fait évoluer Jésus, qui sans doute se rappelle que quelques versets avant, il a aboli les frontières et il accède à sa demande. C'est cette femme étrangère qui lui permet de comprendre vraiment, comme il l'exprimera dans le même passage, mais cette fois-ci raconté par l'évangéliste Matthieu, qu'il n'est pas venu seulement pour les brebis perdues de la maison d'Israël, comme il l'avait d'abord dit à la même femme étrangère, mais dans le récit tel que Matthieu le raconte. Un second malentendu qu'il nous faut, me semble-t-il, absolument dissiper, mais qui pourrait naître de ce texte. Est-ce que, après avoir aboli cette frontière humaine du pur et de l'impur, en définissant un nouveau critère de pureté, Jésus n'est-il pas en train de remplacer un mur par un autre? De remplacer la fatalité de la différence par l'insuffisance de nos mérites. Fatalité de la différence, fatalité, le mot est juste. Dans le Lévitique, l'impur n'est pas coupable. Le bœuf n'est pas meilleur que le porc. La naissance que vient de donner la femme accouchée est une bénédiction. Mais la mère qu'elle vient de devenir est seulement momentanément impure dans l'attente au moment prévu de l'accomplissement du rite de purification. Et c'est peut-être ici qu'il faut se souvenir de l'étonnement que marqué à la lecture du verset 17 qui définissait le discours de Jésus comme une parabole. Une parabole n'est pas une allégorie. Il ne faut pas dans une parabole se contenter, pour comprendre, de remplacer un terme par un autre. Ce qui compte dans une parabole, c'est le mouvement, la dynamique, jamais une transposition terme à terme. Et de fait, dans cette parabole du pur et de l'impur, et de ce qui entre dans la bouche et de ce qui sort du cœur, je crois qu'il ne faut pas que nous pensions qu'un critère de pureté en remplacerait un autre. Et la pureté ou l'impureté ne sont pas acquises selon ce qui sort du cœur, pas davantage qu'elle ne dépendait de ce qu'on mange ou de ce qu'on ne mange pas. En d'autres termes, ce que nous faisons ou ne faisons pas ne nous rendra jamais pur ou impur. Gardons-nous de recevoir cette parole de Jésus selon laquelle c'est ce qui sort du cœur de l'homme qui le rend impur, comme un nouveau mur que le Christ bâtirait cette fois-ci entre bons et méchants. Et là, il n'y aurait plus de fatalité. Chacun serait capable, et là la culpabilité est terrible, d'être bon et de cesser d'être méchant. Et donc, la pureté pourrait se gagner. C'est encore Marc, quelques versets plus tard, ce sera au chapitre 10, dans un texte magnifique, qui nous évite tout malentendu à cet égard. Au jeune homme riche qui salue Jésus en l'appelant « bon maître », Jésus réplique très vertement « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon que Dieu seul. » Et comme pour illustrer cette affirmation, il demandera au jeune homme riche qui a toujours dans son cœur et dans ses actes respecté la loi de Moïse. Et d'ailleurs, à ce moment-là, l'évangéliste Marc reprend les grandes règles du décalogue que notre passage a aussi reprises. Eh bien, comme pour illustrer cette affirmation, il demande au jeune homme riche de faire la seule chose qui lui coûterait tellement qu'il ne la fera pas, vendre tous ses biens. Ce passage-là nous dit très clairement que même Jésus affirme que lui n'est pas bon, que seule la pureté parfaite de la bonté, c'est seul Dieu qui peut s'en prévaloir. Mais, pardonnez-moi de terminer sur ce jeune homme riche, j'aurais tellement aimé plutôt tomber sur ce passage-là, mais il me semble que le lien est indispensable. Parce que lorsque Jésus met au défi le jeune homme riche, de telle sorte que ce jeune homme s'en va tout triste, et c'est à ce moment-là qu'on apprend ce que Jésus savait, bien sûr, que c'était non seulement un jeune homme pieux, mais un jeune homme très riche. Eh bien, moi je crois que si Jésus le met ainsi au défi, c'est parce que, comme le dit l'évangéliste, il avait regardé ce jeune homme et il s'était pris à l'aimer, nous dit le texte de Marc. Et je vois dans cette conjonction entre le défi impossible que Jésus propose à cet homme et l'amour que Jésus ressent pour lui, eh bien, j'y vois finalement la marque de ce que c'est l'amour inconditionnel de Dieu qui dépasse toutes les frontières et qui seul peut nous mettre vraiment en mouvement vers les autres, quelles que soient les limites de notre propre cœur. C'est cet amour inconditionnel de Dieu qui est la seule source de la vraie pureté. Amen.